Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Le grand oral des grandes gueules.
Jean-François Kahn est avec nous, journaliste, auteur de Mémoires d'outre-vie aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Jean-François, c'est 50 ans de journalisme.
60 ans.
60 ans.
62 ans.
Oh là, je voulais te rajeunir, mais bon, alors 62 ans de journalisme raconté. Alors, c'est le premier tome. Il y aura un autre tome dans ses Mémoires d'outre-vie. C'est intéressant, c'est aussi tous ces voyages, ces reportages dans le monde entier, le putsch d'Alger, la guerre du Vietnam, l'affaire Ben Barka, le coup d'État de Pinochet. Alors, justement, fort de cette expérience, Jean-François, est-ce que tu penses que la France est au bord de la guerre civile, comme l'ont écrit des militaires dans deux tribunes?
Ça commence bien. Moi, je suis un expert en manifestation parce que j'habite Place de la République et en coup d'état militaire parce que j'en ai couvert 10 à l'étranger et 2 en France. Et il faut dire que à chaque fois que, sauf qu'il y en avait 2 de gauche, hein, dont 2 de gauche, mais que préalable aux guerres, aux putsch militaires, tous les putsch militaires auxquels j'ai assisté, que j'ai couvert, les militaires disaient qu'ils réagissaient à une guerre civile. Ça fait partie quand même de la rhétorique classique. Il y a eu un danger de guerre civile et on intervient et on prend le pouvoir. Je veux pas dire du tout que c'est ça en France et qu'on risque un coup d'état militaire. Je veux dire, c'est une rhétorique auquel j'ai été confronté très souvent, ce chantage quand même au risque de guerre civile.
Et donc non, la France n'est pas au bord de la guerre civile?
Aujourd'hui, Dieu sait qu'il y a des problèmes et je crois en avoir parlé. Je crois avoir quelquefois essayé d'en parler dans des journaux qui n'ont pas accepté de publier que j'en parle. Parce que j'ai essayé de tirer la sonnette d'alarme dans des journaux qui ont considéré qu'il ne fallait pas. Moi, mais
par exemple,
cela dit,
sur quel sujet ?
Bah, je dirais pas, mais
un exemple.
Bon, les deux grands. Mais cela dit, on n'est pas à la guerre d'une guerre civile. Faut pas non plus tomber dans l'hystérie.
Non, mais la situation actuelle. Le séparatisme, l'archipélisation de la France, ce ne sont pas non plus quelque chose de complètement imaginaire. Je veux dire.
Non, je viens de vous dire. Cessé de tirer la sonnette d'alarme là-dessus.
Oui. Non, mais donc on pourrait imaginer, une situation où on basculerait. Alors, je ne sais pas quelle est la définition de la guerre civile. Où des communautés pourraient s'entre-déchirer.
Ah, on pourrait imaginer. Ça, c'est sûr qu'on pourrait imaginer.
Est-ce que Marine Le Pen sera la prochaine présidente et tu écriras comment Marine Le Pen est arrivée à l'Élysée en 2022?
Ça commence de mieux en mieux.
Oui. Ça se compte, ça continue. Donc,
ah oui, elle peut être élue présidente de la République.
Oui.
C'est possible.
Et pourquoi?
Ah, c'est pourquoi. D'abord, ce que vous dites, d'une part, et puis l'aveuglement incroyable d'un certain nombre d'observateurs de la vie politique, et puis des agissements d'une fraction de la gauche et de l'extrême gauche qui font le jeu de Marine Le Pen. Vous savez, je vous disais que j'ai couvert 10 coups d'État militaires. Vous disiez qu'il y avait un chantage à la guerre civile. Il y a autre chose, c'est l'utilisation à chaque fois des manifestations de l'extrême gauche. Le rapport dialectique entre l'activiste d'une extrême gauche, y compris au Chili de Pinochet, y compris en Argentine, y compris en Uruguay, partout où j'ai été, la dialectique entre l'activisme d'une certaine extrême gauche et d'une certaine extrême droite militaire qui en profite pour dire et prendre le pouvoir finalement. Cette dialectique des deux, je l'ai vécu et c'est vrai qu'on assiste aussi à ça. Il est tout à fait évident qu'il y a d'un côté un espèce d'activisme de l'extrême gauche plus les activités de l'islamiste, la tolérance de l'islamiste. De l'autre, une surenchère aussi quelquefois folle dans certains secteurs de la droite qui naturellement font
totalement le jeu de Marine Le Pen. C'est-à-dire, il y a une fraction de la gauche qui se suicide, qui se tire des balles dans la pied tous les jours, et il y a une fraction de la droite qui se suicide et se tire le voile dans la pied tous les jours. Bon, ben voilà, le risque, il est là.
C'est ce qui est singulier dans votre ouvrage, c'est que vous décrivez des faits historiques du siècle dernier, auquel vous avez assisté, avec une mémoire parfois incertaine, un peu romanesque. Mais par contre, à un moment, dans le bouquin, vous parlez de réification des adversaires. Vous parlez d'excommunication.
C'est moi qui le dis que la mémoire est incertaine.
Oui, oui, c'est vous.
Je voudrais préciser.
Oui,
non, mais c'est moi qui le dis.
Vous le dites. Je veux dire, vous le dites et vous l'admettez. Oui. Et je trouve ça très bien parce que ça donne, ça nourrit l'aspect romanesque et en tout cas romantique et du rapport qu'on peut avoir à la mémoire. Vous parlez de réification des adversaires, d'excommunication des divergences, de la criminalisation des désaccords. Vous parlez de néo-religiosité. Vous parlez de charabia jargonesque. J'ai le sentiment que c'est exactement ce que l'on est en train de vivre, notamment avec ces néologismes en iste qui remplacent souvent une pensée exhaustive exprimée. Est-ce que vous partagez ce sentiment-là, que ce constat que vous faites là à des moments précis de l'histoire du XXe siècle, ce sont des choses que l'on vit aujourd'hui?
Absolument. Hein. Quand j'ai commencé à raconter, à écrire ces mémoires, j'étais pas conscient à ce point que j'allais parler de l'actualité. J'avais absolument pas la volonté de parler de l'actualité. Je en parle pour l'histoire des militaires, mais c'est évident, ce que vous dites est absolument évident. Je vais vous dire, quand j'étais jeune, il y avait dans la dialectique, en particulier de l'extrême droite surtout, il y avait le concept d'anti-France. On dénonçait toujours l'anti-France. Bon. Mais finalement, l'anti-France aujourd'hui, d'un côté, pendant un an, toutes les semaines, et plusieurs fois par semaine, on a donné à l'étranger le spectacle de foules déchaînées qui cassent les commerces, qui attaquent, cette violence répétitive qu'on a vue à l'étranger sur tous les écrans de télévision d'étrangers, etc. Vous imaginez l'image de la France que ça donne? Et quand aujourd'hui on publie des listes de militaires qui parlent de guerre civile et qui dit on va être obligé d'intervenir peut-être, etc. Vous imaginez l'image de la France aujourd'hui? Est-ce que c'est pas une coalition de deux anti-France? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui ça, d'une certaine manière? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où que tous les démocrates, puisqu'on parle de soulèvement, aujourd'hui tout le monde est extrémiste. D'abord, il n'y a plus les extrémistes. Quand je regarde la télé maintenant, ce n'est que de l'extrémiste. Ou c'est de l'extrémiste de droite, ou c'est l'extrémiste de gauche, je ne vois plus que des extrémistes. Bah, il y a aussi des gens raisonnables, il y a aussi des républicains, il y a aussi des démocrates dans ce pays. Eh bien, je rêve que des démocrates, que des républicains, que des laïcs, que des patriotes, surtout que des patriotes se soulèvent, puisqu'on parle de soulèvement, et disent arrêtez, arrêtez, arrêtez de faire ce mal à ce pays, arrêtez ce mal de face à la France. Arrêtez de cette espèce de d'hystérie. C'est pas un problème politique. Aujourd'hui, c'est pas du commentaire politique qu'on fait. C'est de la psychanalyse. On a besoin de soigner. On a besoin de psychiatres pour soigner cette espèce d'accès d'hystérie qui peut nous faire un mal terrible. Voilà ce que
Pardon.
J'avais pas envie de vous le dire, mais puisque vous me voulez absolument que je parle pas du livre, mais de l'actualité.
Oui, c'est
le livre. Je vous en parle.
C'est lié au livre.
C'est lié au livre. Mais puisque simplement pour rebondir là-dessus, vous dites il faut que les gens raisonnables, les démocrates sortent dans la rue, mais.
Les patriotes, surtout.
Pardon, mais les Français ont élu à l'Élysée quelqu'un qui était plutôt raisonnable, Emmanuel Macron, qui voulait réunir justement les gens raisonnables des deux camps, ceux de gauche et de droite. Et quatre ans après, finalement, le pays est tendu, nerveux, peut-être au bord de mettre Marine Le Pen à l'Élysée. Donc, les gens démocrates ou les gens raisonnables, ils sont au pouvoir et ça ne résout pas les problèmes.
Le fait, d'ailleurs, qu'ils sont au pouvoir a contribué à radicaliser
les autres.
Très sincèrement, en matière, puisque vous êtes, je vous rejoins, presque à vouloir une sorte de psychiatrisation de la société. Est-ce que l'un des éléments aujourd'hui les plus dangereux, c'est la racialisation de la société? Est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est un des éléments les plus importants qui montre que la société est devenue folle?
Oui, mais j'ai écrit là-dessus, en particulier un grand article là-dessus. C'est-à-dire que en ce qui concerne en particulier la gauche, enfin dans certains secteurs de la gauche, comment peuvent-ils se battre efficacement contre le Front National, contre l'extrême droite et contre ce que j'appelle moi aussi dans certains secteurs le néofascisme? Je dis pas Front National égale néofascisme. Je dis il y a aussi des tendances néofascistes dans l'opinion.
Alors que, en effet, comment peut-il combattre le racisme alors qu'ils font du racisme inversé? C'est-à-dire qu'ils ont mis la race au centre même de leur réflexion. Comment ils peuvent... Si, c'est dans certains secteurs de la gauche, extrême gauche, c'est vrai ce que je dis.
Mais c'est une minorité.
Ah oui, c'est une minorité. Non, mais c'est très juste.
Vous disiez vous-même c'est que très juste. Les démocrates et les républicains, qui sont manifestement en majorité comparativement aux extrêmes que vous citiez, sont silencieux.
Non,
mais ça, c'est plutôt rassurant.
Non, mais c'est très juste ce que vous venez de dire, c'est une minorité.
Tout à fait.
Mais c'est une minorité, mais on entend qu'elle.
Et c'est ça.
Donc,
parce qu'on lui donne la parole, donc pour l'opinion,
pour l'opinion, c'est pas une minorité. Faut leur dire, en effet, on leur dira jamais assez que c'est une minorité. Donc voilà ça. Comment, dans la mesure où ils rompent avec l'universalisme, comment est-ce qu'ils peuvent, comment ils peuvent dénoncer le ségrégationnisme de l'extrême droite, par exemple, à partir du moment où ils rompent avec l'idée de laïcité, comment ils peuvent dénoncer le néocléricalisme de l'extrême droite? Voilà, ils se sont mis dans un piège absolument terrifiant. Mais vous avez raison. C'est une minorité.
Absolument.
Mais là, il y a une responsabilité aussi de certains médias, c'est en particulier du média de gauche, qui donne l'impression que c'est pas une minorité.
Joël Dagosséry.
Oui, moi, contrairement à David, j'ai une petite frustration quand même, c'est vrai, de votre mémoire défaillante. De votre mémoire défaillante, parce que vous consacrez même un chapitre à ça, au fait que vous ne reteniez pas les discours. Et j'étais un peu frustrée, parce que je me suis dit, il a vu tellement de choses qui va nous rapporter des discours auxquels je n'ai pas eu accès, etc. Mais ce n'est pas très grave. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est de par tout ce que vous avez pu voir, je sais que, par exemple, la Chine et la Russie rêvent de désoccidentaliser le monde. Est-ce que vous croyez qu'à un moment, le déclin, entre guillemets, ce dont on a peur, nous, du déclin français, est-ce que vous croyez pas que le déclin peut venir par là, justement? Au-delà du déclin français, est-ce que le fait qu'il y ait un nouvel ordre mondial, on va dire, le fait que ça se retourne et que, justement, l'Occident devienne minoritaire et moins d'influence, etc., est-ce que c'est pas ce déclin-là qui nous guette?
Ah, c'est possible, surtout que au 8e ou 9e siècle, la Chine était avant l'Occident, oui. Économiquement. Et donc, il y a eu un retournement. Et que l'histoire, c'est l'histoire, en effet, de civilisations qui naissent et qui disparaissent, de continents qui dominent et de continents qui sont dominés. Et donc, on peut, en effet, penser qu'il y a des cycles et qu'aujourd'hui, peu à peu, cette domination de l'Occident pour le monde est remise en cause par l'arrivée de nouvelles puissances, et surtout la Chine, parce que la Russie n'est pas aujourd'hui dans une situation de domination. Mais c'est vrai que cela étant, il y a des facteurs de faiblesse, de contradiction et d'explosion possible, et même de guerre civile possible en Chine qu'on minimise aussi. Hein.
Vous êtes justement
moi,
en
je
Chine.
Moi, je l'ai vécu là. Je le raconte dans le livre. J'ai été en Chine, oui. J'ai accompagné Alain Perfit. Il m'a demandé de l'accompagner quand il a fait son voyage en Chine. Faut voir ce que c'était que la Chine. Quand vous pensez qu'il y a eu des gens qui ont été maoïstes, faut voir ce que c'était la Chine. Je l'ai vu, je le raconte. C'est quand même extraordinaire.
Justement, vous êtes en Chine avec une délégation de députés.
Ouais.
Et parmi ces députés, il y a Maurice Papon, dont vous dites qu'il est un petit peu en train de philosopher de manière quelque peu arrogante. Et vous dites, ce dont j'eus aimé qu'il m'entretienne, il ne voulait plus jamais en parler. Est-ce que vous pouvez nous dire là, ce dont vous auriez aimé qu'il vous entretienne, de quoi il s'agit très exactement à ce moment-là? Parce que dans le livre, vous parlez souvent de mauvaises graines qui donnent de mauvaises plantes. Et à plusieurs reprises, dans différents chapitres, on vous voit aux côtés de mauvaises graines qui sont devenues de mauvaises plantes, et on n'a jamais votre réaction à ce moment-là. Et je suis intéressé par ce que vous auriez voulu lui dire.
Parce que feriez-vous, en fait, pendant 60 ans ou 63 ans, j'ai été au cœur de pratiquement tous les événements.
Oui.
Mais c'est un hasard, hein. Ça ne doit rien à mes qualités ou à mon talent potentiel. C'est vraiment un hasard. Mais enfin, que ça soit sur le plan intérieur ou en plan extérieur, j'ai tout vécu. C'est pour ça que je dis, je me retourne sidéré. Je crois qu'il n'y a personne aujourd'hui de vivant qui peut avoir vécu ça. Et puisque vous parlez de Papon, il se trouve que, d'une part, j'étais en Algérie. Et donc, j'ai vu ce qui s'était passé quand il était Idam en Algérie, dans l'Est. Bon. Ensuite, j'ai couvert la manifestation de Charonne, où il y a eu 9 morts. Et c'était lui, le ministre de la police. Ensuite, j'ai couvert 61. c'est-à-dire la manifestation d'Algériens où un certain nombre d'Algériens ont été tués par la police, etc. C'était lui, ministre de l'Intérieur. Et j'ai couvert l'affaire Ben Barka, j'ai même révélé l'affaire Ben Barka, et c'était lui. Et c'est vrai que me retrouvant avec lui en Chine, sans arrêt, je voulais le lire. Alors lui, il avait trouvé un moyen, il avait écrit un livre sur Descartes et le discours de la méthode, et il ne parlait plus que de ça. Ah non, mais je suis un spécialiste de Descartes. qu'il ait été ministre de... Je ne savais pas l'histoire des Juifs. Je ne savais pas l'histoire des Juifs.
Il était vraiment...
Personne ne savait, ça a été révélé après. À cette époque, je ne savais pas du tout.
Je mettais ça sur le compte de l'acquittement.
Justement, vous ne saviez pas.
Dans tous les événements
que vous avez couverts, il y en a un qui a été commémoré là ces derniers jours, c'est le 10 mai 1981, la victoire de François Mitterrand. Je crois savoir que vous aviez organisé... Il y avait une fête où il fallait être, c'est la fête que vous avez organisée tout près de la Bastille, à Beaufinger, au restaurant Beaufinger, hein, et vous aviez invité plein de monde. Moi, on m'a dit, les plus anciens m'ont dit, il y a un endroit où il fallait être, ce 10 mai 80, c'était avec Jean-François Kahn.
Oui, mais moi, j'avais pas du tout dans ce restaurant-là,
qui est à côté de la place de la Bastille.
J'avais pas du tout prévu cet événement. Oui. Moi, j'avais pris un journal, j'avais dirigé un journal qui s'appelait Les Nouvelles Littéraires, qui existait depuis un certain temps. Quand je l'ai pris, il se diffusait à 1500 exemplaires. Mais je trouve que c'était un challenge. Me dire, naturellement, on ne peut plus vendre aujourd'hui un journal qui s'appelle Les Nouvelles Littéraires, avec le mot littéraire. Mais j'ai dit, je vais faire un journal généraliste, comme l'Express, comme le Nouvel Obs, où la culture sera la base. Mais à partir de la culture, on parlera de tout. La politique étrangère, la politique nationale, etc. Et j'ai fait ça. Et je l'ai conduit à 70 000 exemplaires. Je crois que 1500 à 70 000, il y a peu d'exemples de progression d'un journal comme ça. Et donc, quand il y a eu l'élection de Mitterrand, moi, je n'ai pas voté Mitterrand en premier tour des élections, pour vous dire la vérité, à cause de la retraite à 60 ans. Je trouvais que c'était démagogique, qu'on allait passer des années à essayer de s'en sortir.
Mais les faits vous en donnaient raison.
Ah, ouais. Bon. Mais, et donc, on s'est dit, mais si Mitterrand est élu au deuxième tour, c'est quand même un événement incroyable. Nous, on a des petits locaux comme ça. On va faire une soirée parce qu'on va montrer qu'on est comme les grands quand même. Hein. Donc, on va faire comme l'Obs, comme l'Express, etc. Nous aussi, on va faire une soirée électorale, mais quand même dans nos petits locaux. Et or, il se trouve qu'il y avait une Beaufinger, célèbre Beaufinger. Le patron était un nationaliste basque qui était convaincu que Mitterrand donnerait l'indépendance au Pays Basque. Il s'était mis ça dans la tête. Donc, profitons de ça, je vais le voir. J'ai écouté. Si à 16h, à 18h, on sait que c'est Mitterrand qui passe, est-ce qu'on peut faire chez vous une soirée électorale? Ah, mais alors là, oui, bien sûr. D'ailleurs, je vous offre le buffet. Il nous a vraiment fait un buffet, etc. Je rentre et je dis, toi qui fais le cinéma, t'appelles les cinéastes. Toi qui fais la chanson, t'appelles les chanteurs. Toi qui fais le théâtre, t'appelles les théâtres, etc. On appelle et dit, et à ce moment-là, il y a eu un phénomène que je m'explique pas. C'est là que ça se passe.
Oui,
c'est dans tout Paris, c'est là que ça se passe. Et je lui avais dit, on sera au moins 150. Je lui avais dit, bon. Mais attends, on a été 3000. C'est-à-dire, il n'y a pas un écrivain, il n'y a pas un cinéaste, il n'y a pas un chanteur, il n'y a pas tout le monde. Il y avait Dormesson aussi, il y avait Dutour, mais il y avait tout. Et il y avait Aragon, entre autres. Mais il y avait tout le monde. Et à la fin, vers minuit, Aragon est parti, il s'est retourné vers moi, enfin non, vers un collaborateur. Et il a dit, on fêtait quoi exactement?
Excellent. Est-ce que, très franchement, la vie politique française, elle est à la hauteur aujourd'hui de celle que vous avez connue ou pas, Jean-François Kahn?
C'est très difficile de juger. Elle est plus hystérisée qu'elle n'a été. Elle a été un peu hystérisée en 80.
En 80 quand même.
Mais en 80, je donne des exemples dans des livres, je sais pas si vous l'avez lu. Les gens qui vont lire, c'est effarant. Quand on lit ça, on dit, mais on
ne croit pas. Chirac, par exemple, a voté Mitterrand au deuxième tour.
Ah oui, mais finalement, mais sur les réactions, sur les rires, la peur, le truc extraordinaire. Bon. Mais, c'était un gouvernement communiste socialiste, qui faisait une politique sociale radicale et qui a fait des nationalisations. Donc, on peut aussi comprendre cette, alors qu'aujourd'hui, c'est un gouvernement de centre droit qui fait une politique néolibérale. Et donc, il s'est lissé à peu près autant d'hystérie. C'est ça qui est extraordinaire. Et puis, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'en même temps qu'il y a d'hystérie. Parce que du coup, il a les deux. C'est la première fois où l'opposition, c'est les deux camps. C'est jamais arrivé.
Est-ce que c'est à la hauteur? Est-ce que la vie politique française aujourd'hui est à la hauteur des enjeux? Est-ce qu'elle est à la hauteur des enjeux?
Au niveau. Moi, je veux bien vous dire ce que je pense. Mais vous
êtes là pour ça.
Hein? Non, mais.
Mais sur le niveau politique des gens d'aujourd'hui.
Je peux vous dire, franchement, parmi les dire, alors vous, le chef des LR,
Christian Jacob,
c'est un imbécile. Mm-hmm. Le chef de la République en marche, Guérini, c'est un nul. Et le chef des socialistes,
Olivier Faure,
il n'existe pas, il est transparent. On n'a jamais vu ça. Mm. au même moment, tous les trois. On n'a jamais vu ça. Et après, on s'étonne que Marine Le Pen, on peut détester Marine Le Pen, mais elle existe. Donc, voilà.
Mais est-ce que ce n'est pas un nivellement général de la société?
Non. Non.
Vous ne croyez pas, vous?
Non. Ah non. Je crois que dans le tréfonds de la société, il y a des trésors, des dynamismes, des capacités, et que notre travail, ça va être essayer de les entretenir et de les faire se fleurir.
Mais cette espèce d'horizontalité qui voudrait que, par exemple, sur les réseaux sociaux, la parole d'un chercheur éminent, la parole d'un ministre, vaut la parole de n'importe quel citoyen sur n'importe quel sujet. Est-ce que ça, comme le dit Gilles Williams, ça nivelle pas par le bas, et est-ce que ça crée pas cette défiance, en tout cas ça ne nourrit pas cette défiance à l'égard de la classe politique?
Ça nivelle pas par le bas, enfin ça entretient l'hystérie dont je vous parle. Alors l'hystérie, c'est une forme d'nivellement par le bas.
Ah bah oui.
C'est la différence entre la polémique saine et l'hystérie. Mais les réseaux sociaux, c'est plus inquiétant que la bombe atomique. On est plus menacé à terme par les réseaux sociaux que par la bombe atomique.
Pourquoi? Un phénomène de foule.
Je souhaite pas parler du Proche-Orient, mais puisque c'est dans l'actualité, regardez sur les réseaux sociaux ou même sur les réseaux des grands journaux. Vous avez tout d'abord de l'antisémitisme, un déferlement d'antisémitisme, plus le fait que on défend le Hamas, c'est Israël qui est responsable, etc. Le Hamas, il tire quand même des fusées contre Israël, etc. Et de l'autre, à partir d'une information comme quoi il y a eu des extrémistes, vraiment extrême droite juive, qui ont lynché un arabe, il y a des réactions. Bravo, c'est ce qu'il faut faire. Faudrait faire ça en France. C'est excellent, etc. Et on a les deux.
Les deux
qui se déchaînent. Mmh. Mais c'est horrible. Mmh. Et soi-disant, c'est modéré. On m'explique qu'il y a une modération. Non, mais c'est... On va tuer le pays. Quand je vous disais tout à l'heure que je souhaite une réaction des patriotes, vous voulez qu'on tue le pays?
Ben, continuez comme Jean-François ça. Merci Jean-François Kahn, Mémoire d'Outreville, le tome 1, à lire.
Vous n'avez même pas dit que c'est rigolo.
Merci, ça l'est. C'est comme vous. Merci.
C'est passionnant.
Merci d'être passé par les GG, par les grandes gueules.